à tous les imbéciles. L'homme est responsable de seulement 6 % des GES et le reste est fait par la planète elle-même, Méticoune.
Continue à faire des barrages, tout va bien et tous les poissons ne sont pas contaminés au mercure.
Juste pour se faire pardonner pour la noyade de centaines de caribous il n'y a pas si longtemps.
Bonjour, je m'appelle Francis Labbé et bienvenue à cet autre épisode de la série « Votre tweet est important pour nous ». C'est une série balado, vous le savez, où on aborde des questions que vous nous posez souvent sur les médias sociaux. Autour de la table, on a celles et ceux qui vous répondent par ordre d'ancienneté de vie. Monsieur Pierre-Alexandre Buisson, bonjour.
Salutations distinguées.
Monsieur Jonathan Côté.
Bonjour, Francis.
Et Madame Gabrielle Leblanc.
Monsieur Labbé.
Le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, c'est la propreté de l'énergie. Est-ce que l'hydroélectricité, c'est une source d'énergie qui est propre et abordable, renouvelable? On a toutes les réponses à ça. Et ce n'est pas d'hier, Pierre-Alexandre, qu'on se fait poser cette question-là.
Effectivement, si on se souvient, on est débarqué sur Facebook en tant que société d'État seulement en 2016. Puis dès 2017, on faisait des publications environnement, dont une qui parlait des GES. Puis il y a un certain Bernard qui nous avait dit « Hydro-libéral, menteur et voleur, c'est un mensonge. Je vois rien qui a changé, sauf les factures d'électricité qui n'arrêtent pas de grimper. » Donc, lui, il ne voyait pas un changement environnemental, malgré les changements climatiques qui sont assez bien documentés. Donc, on lui a dit « Les GES ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est normal que vous n'ayez pas vu ce changement. » Puis là, il nous a répondu « Mais prenez-vous pour une valise, les GES. Demandez ça aux chemtrails. » Avec des caps, bien entendu, comme un bon boomer qui crie.
Des caps ou lettres majuscules?
Oui, des lettres majuscules, pardon. Donc, on lui a répondu, avez-vous les coordonnées des chemtrails afin de leur demander?
Quand on parle de chemtrail, pour le commun des mortels, on parle de...
Chemtrail, c'est une conspiration selon laquelle les traînées laissées par les avions dans le ciel seraient en fait du poison pour soit stériliser la population ou soit abrutir la population.
Ou soit tout ça.
Tout ça, oui.
Ce côté, un commentaire qui a retenu votre attention.
Oui, encore sur le sujet, là, on a Robin qui nous disait... En fait, on avait une publication encore qui parlait de réduction de GES et, attention, on va en faire encore. Là, il va en avoir... C'était pas la dernière, malgré le fait que Robin ait peu apprécié. Et donc, il nous a dit, à tous les imbéciles, l'homme est responsable de seulement 6 % des GES et le reste est fait par la planète elle-même, Méticoune. Là, évidemment, on regardait un peu, on se demandait pourquoi Robin disait ça à tous les gens qui avaient peur, finalement, pour l'avenir de l'humanité. Et donc, on lui a dit que nous avions toujours su que le contre-argumentaire le plus étoffé sur les gaz à effet de serre proviendrait d'une personne dont la photo de profil Facebook est un pick-up. Parce que c'était ça, la photo de profil qu'il y avait sur Facebook. Je n'ai rien contre les pick-up, cela dit, mais force est d'admettre que ce que je trouve que ça montre, c'est que il y a vraiment... Nous, on prend pour acquis, je pense, des fois que tout le monde rame ensemble dans la même direction. Fait que c'est pas évident. On a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire, beaucoup d'échanges à avoir sur les médias sociaux à ce sujet-là.
Professeur Jonathan. Okay.
Madame Leblanc, de votre côté?
Bien, en fait, nous, on reçoit souvent des questions sur l'éolien, le solaire, tout ça. Les gens veulent comparer les différentes sources d'énergie. Puis vous savez, là, l'éolien va prendre de plus en plus de place chez Hydro-Québec. On est en analyse de soumission pour des appels d'offres qu'on a lancés en décembre dernier pour des blocs d'approvisionnement qui contiennent notamment de l'éolien. En avril 2021, on a signé un partenariat historique pour un projet éolien à Puite. On vient de signer un partenariat avec Boralex et Énergir pour élaborer des projets d'éolien sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré. Je serais tentée de dire que l'éolien a le vent dans les voiles. J'avais tellement hâte de vous la faire.
Est-ce qu'on peut avoir un effet de tambour, s'il vous plaît, avec la cymbale?
J'y ai pensé toute la nuit. bref, tout ça pour dire que les gens nous posent souvent des questions, puis Marc nous a posé la question la plus pertinente sur le sujet. Allez-vous changer votre nom pour Vent Québec si jamais les éoliennes deviennent une source importante d'énergie? C'est à quoi j'ai répondu, quelque chose d'aussi drôle que ce que je viens de vous faire. On va y penser.
Meilleur joke que j'ai entendu dans les 15 dernières secondes.
À vous. Effectivement.
Donc, tel que mentionné un peu plus tôt, on parle de l'impact environnemental de l'hydroélectricité. Et justement, pour aborder le sujet, on a deux spécialistes avec nous. M. Alain Tremblay, bonjour. Et bonjour. M. François Bilodeau.
Bonjour.
M. Tremblay, d'abord... Comment on vous présente le titre officiel d'Alain Tremblay?
Chargé de programme gaz à effet de serre Mercure à Hydro-Québec.
Et accessoirement, doctorat.
Ah, oui, doctorat en sciences d'environnement à Hydro-Québec. Là, ça m'aide dans certains dossiers, là, ouais. Effectivement.
M. Bilodeau, de votre côté.
Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est chargé de programme Mercure, gaz à effet de serre à Hydro-Québec. À la base, moi, j'ai une maîtrise en sciences de l'eau de l'INRSO à Québec. Donc, ça me permet justement là, de bien comprendre la dynamique des milieux aquatiques là, et leur impact sur l'environnement.
D'entrée de jeu, question courte et simple pour vous. En quelques mots, est-ce que l'hydroélectricité, c'est plus propre que d'autres sources d'énergie, selon vous? Alain?
Absolument. On a une très belle énergie au Québec. Là, dans le climat du Québec, puis dans la façon qu'on produit l'électricité, c'est une très belle énergie.
D'accord. M. Bilodeau?
Absolument. Si on se compare, en fait, il y a une façon de comparer les choix énergétiques qu'on appelle avec une technique d'analyse de cycle de vie. Donc, on peut comparer des pommes avec des pommes. C'est une façon, en fait, de voir, en fait, la signature carbone des différentes sources d'énergie. On se rend compte que l'hydroélectricité, là, finalement, c'est quelque chose qui est excellent en termes de, d'empreinte carbone. Donc, sa faible empreinte carbone est comparable aux autres énergies renouvelables, comme, par exemple, le solaire ou l'éolien, par exemple.
D'accord. Et déjà, on a des commentaires à vous soumettre parce que avec ce qu'on nous envoie sur les médias sociaux, vous allez nous aider à développer un peu le sujet. Pierre-Alexandre, je pense que vous avez un commentaire justement à soumettre à nos invités.
On a un Robert qui nous disait « Désolé, mais inonder et détruire des millions d'hectares de forêt dans le but de vendre de l'hydroélectricité à la moitié du prix coûtant n'est ni écologique ni économiquement avantageux. Ça ne sert ni l'environnement et certainement pas les Québécois, puisqu'ils ne sont même plus propriétaires comme en était l'intention au début de votre existence. Hydro-Québec est devenu un outil politique de manipulation, fort malheureusement. » Avez-vous quelque chose à répondre à ça, messieurs?
Ben, il y a un volet politique que je ne rentrerai pas, mais il y a un volet scientifique, c'est-à-dire que oui, l'impact majeur d'un réservoir, c'est d'en noyer des sols forestiers, ça, c'est clair. Par contre, l'énergie à long terme qui est produite par ça est fantastique. Il y a du carbone en noyer, c'est ça qui fait qu'on a des gaz à effet de serre, mais on n'a pas beaucoup de matière organique en noyer au Québec. On va se rappeler tout le monde collectivement qu'on est dans un pays froid, il y a de la neige, il y a de la glace, mais la végétation est dans ce sens-là, n'est pas très abondante, très dense, mais on en noie une quantité de matière organique relativement faible. Ça se traduit par des émissions de gaz à effet de serre faibles par rapport à d'autres sources d'énergie. C'est pas zéro émission, là. Ça fait au moins 30 ans qu'Hydro-Québec le dit. C'est pas zéro émission, mais c'est des émissions faibles quand on se compare à d'autres sources d'émissions pour la même quantité d'énergie produite, là.
Parce qu'effectivement, nos plus grands réservoirs sont situés en région boréale. Pas mal plus au nord que les secteurs habités de la province. Puis c'est pas une végétation luxuriante qu'on a là.
C'est pas une végétation luxuriante, mais il faut aussi garder en tête que les sols en Boréal, c'est très peu épais. Là. On parle là, de 10-12 cm. C'est l'épaisseur moyenne d'un sol en Boréal. Fait qu'il n'y a pas énormément de matière organique en noyer. Il y en a, là, mais c'est pas beaucoup de matière organique. Donc, ça ne crée pas beaucoup de gaz à effet de serre avec le climat froid, l'eau froide et puis l'eau qui est très bien oxygénée. Fait que c'est un ensemble de caractéristiques du Québec qui sont propres au Québec qui fait que, en bout de compte, on a des émissions faibles.
En d'autres termes, si on faisait un réservoir dans des pays où il fait un peu plus chaud, M. Bilodeau, ça pourrait générer davantage de gaz à effet de serre?
Oui, exactement. Et puis, on parle souvent de gaz à effet de serre dans nos recherches à nous, moi et Alain. On parle souvent de CO2, donc du dioxyde de carbone, et du méthane, CH4. Donc, on le sait avec les recherches que dans les pays tropicaux, chauds, ils émettent beaucoup plus de méthane que dans notre situation géographique, donc plus froide ou bien oxygénée.
Mais justement, je rebondis tout de suite dessus parce que j'ai un exemple. J'ai quelqu'un sur Twitter qui nous disait précisément ça. Il dit... Pas un mot sur le méthane, le CO2 et le N2O produit par la décomposition de la biomasse au fond des réservoirs derrière les barrages. Je suis surpris, avec un bonhomme qui fait un large sourire. Il dit pas un mot, mais on en dit bien gros des mots à ce sujet-là, il me semble.
C'est juste drôle d'entendre encore ça après tant d'années qu'au niveau scientifique, Hydro-Québec s'est reconnu leader mondial dans ces activités-là. On a publié des quantités phénoménales de données sur ça. N2O, d'entrée de jeu, c'est pas un enjeu chez nous. Pour avoir du N2O, ça prend des sources d'azote qui sont importantes. Ces sources-là viennent surtout des eaux usées ou des ruissellements des zones agricoles. Mais dans le nord du Québec, on n'a pas ça du tout.
Pas beaucoup d'eau usée.
N2O,
hein? Ça vient des engrais chimiques, des pipis. Dans votre urine, là, il y a de l'azote là-dedans. Donc, si on n'a pas de ruissellement des zones agricoles avec les produits chimiques, les engrais chimiques, bien... On a peu de chances d'avoir de N2O qui se rend au réservoir ou au lac. On n'a pas ça dans nos écosystèmes. Fait que l'N2O d'entrée de jeu, c'est pas un enjeu chez nous. CO2, oui, parce que c'est la décomposition de matière organique, on l'a dit, mais en faible quantité. Méthane, François, là, mon collègue l'a dit tantôt, pour produire du méthane, chimie 101, ça prend une absence d'oxygène ou un milieu qui n'a pas d'oxygène. On est chanceux au Québec, on a de l'eau froide qui fait qu'il y a beaucoup d'oxygène dissoute dans l'eau et donc ça réduit considérablement la production de méthane. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas de méthane de produit au Québec, mais les quantités qu'on produit sont extrêmement faibles comparativement à des milieux tropicaux là, qui vont favoriser la production de méthane.
Entre nos réservoirs, disons, puis les flatulences de toutes les vaches au Québec, qu'est-ce qui représente le plus de production de méthane?
Les vaches, mais moi, je vais en donner une plus comparable aux réservoirs. Les gens ont tendance à l'oublier, les castors. Les castors créent des réservoirs, des petits réservoirs, mais quand on regarde la superficie totale de couverte au Québec des étangs de castors, ils émettent autant de gaz à effet de serre, les étangs de castors, que l'ensemble de nos réservoirs. Et la raison, c'est que c'est des réservoirs peu profonds qui produisent beaucoup de méthane.
Ils produisent peu de kilowattheures aussi, donc c'est
ouais,
sûr que...
Oui, bien là, on parlait d'émissions, on parlait pas de kilowattheures.
Donc, la raison pour laquelle on en parle peu, c'est qu'on en produit peu. Parce que c'est important de dire quand même que ces recherches-là sont accessibles sur le site d'Hydro-Québec. T'sais, c'est des réponses que nous, on répète quand même souvent aux gens. La documentation, elle existe, vous y travaillez, puis elle est disponible pour l'ensemble des clients.
Absolument. Puis c'est important de mentionner qu'on ne fait pas ces recherches-là seuls. Donc, il y a beaucoup de partenaires universitaires qui sont impliqués avec nous dans ces recherches-là. Je pense à l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université Laval, par exemple. Donc, ça amène une certaine crédibilité aussi parce qu'ils nous permettent d'avoir accès justement à de l'expertise de pointe. Et puis, eux permettent en fait de faire aussi beaucoup d'articles scientifiques qui sont reconnus par les pairs. Donc, nous, on est là en arrière avec justement pour permettre là, de mieux comprendre la dynamique. On aide les universitaires au niveau logistique sur le territoire parce qu'il ne faut pas oublier, là, nous, là, nos territoires sont très éloignés. Et une des grandes parts de difficulté, c'est l'accès au territoire pour les faire des mesures. Et puis, nous, on met ça en place et puis ça nous permet là, justement d'aller chercher énormément d'informations. Maintenant, il y a des systèmes automatiques qu'on installe qui permettent de faire des mesures en continu un peu partout sur le territoire. Puis là, on se retrouve avec des données aux alentours de plus de 10 000 données, 20 000, 30 000 par année qui nous permettent en fait de documenter les milieux naturels, mais aussi les milieux aménagés, donc les réservoirs. Puis avec tout ça, ça nous permet de faire un bilan net en fait des émissions de nos gaz à effet de serre. Donc, on soustrait en fait la contribution des milieux naturels en noyer à la contribution des réservoirs et on se retrouve à pouvoir démontrer avec chiffres à l'appui que notre hydroélectricité, même à réservoir, est excessivement avantageuse au niveau de l'émission des gaz à effet de serre.
Donc, on compare, mettons, si le barrage est là puis s'il n'est pas là, la différence
Exactement.
Entre les deux. Puis là, on peut calculer justement c'est quoi la différence. Mais ce que tu disais est intéressant parce que des fois, les gens nous disent « Ouais, mais on sait bien, c'est vous qui financez les recherches, fait que vous allez bien mettre ce que vous voulez là-dedans. »
Je peux apporter une bémol là-dessus. C'est pas, on co-finance la recherche, on n'est pas tout seul à la financer. Puis il y a un organisme au Canada qui s'assure que la recherche est indépendante. Nous, on co-finance la recherche, mais l'organisme qui est le CIRES-NG, là, le Conseil national de recherche scientifique, qui chapeaute l'ensemble des recherches. Donc la recherche, qu'elle soit co-financée par nous ou par d'autres, c'est le même patron de travail de recherche qui est fait. Les universités gardent. Mais conserve là, une indépendance par rapport à ça.
Puis vous êtes pas, tu sais, vous pouvez pas mettre n'importe quoi là-dedans. Là. Vous avez toujours quelqu'un qui vous regarde là, derrière l'épaule là, pour voir qu'est-ce que vous écrivez. Là.
Absolument. Dans le sens, il y a des universitaires qui sont là pour ils ont une certaine indépendance. Puis quand on soumet des articles, il y a toute la revue, la littérature qui est faite par des pairs. Donc, il y a toujours des gens qui regardent ce qu'on fait. Puis nous, ce qu'on avance comme chiffre ou comme démarche, c'est des choses qui sont fondées sur de la science qui est solidement réalisée. Là.
La production de gaz à effet de serre, c'est la décomposition de la matière organique. Ça dure un certain temps parce que, dans le fond, après quelques années, ça devient un genre de gros lac, là, un réservoir.
Bien, c'est en plein ça. Mon collègue Alain a mentionné tantôt un des grands impacts, en fait, de l'aménagement de réservoirs hydroélectriques, c'est l'ennoiement de la matière organique, donc des sols forestiers. Je dis souvent ça pour expliquer. Les bactéries sont déjà présentes dans le milieu aquatique. Là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que la table est mise. On ajoute de la matière organique, donc le lichen, les couvre-sols. Les bactéries mangent mou. Donc, c'est un petit peu comme ça, moi, que je le vulgarise.
Les bactéries mangent mou.
Ils décomposent rapidement, ce qui est en noyer, quelques années après la mise en eau. Donc là, il y a un boom biologique. Donc, il y a forcément un peu plus de gaz à effet de serre qui sont produits. Et puis, après un certain nombre d'années, bien là, ce qui était à digérer a été digéré. Là, on revient semblable à ce qu'il y avait à un milieu naturel avant l'ennoiement.
Donc, une bactérie, c'est comme un bébé, mais moins bruyant.
Ouais, on pourrait le dire comme ça. C'est ça. C'est moins intéressant, par contre.
Mais c'est
ça mange tout le temps.
Mais moi, j'aime ça rajouter quand même quelque chose par rapport à François vient de dire. Parce que les gens pensent tout le temps que tout ce qu'on a en noix va se décomposer. C'est faux, là. François l'a dit, là, les bactéries aiment le mou, là, les lichens, mais les arbres en soi, là, les gens pensent que ça se décompose. Les arbres, ça se décompose pas, là. La matière qui forme les arbres, c'est réfractaire à la décomposition. Fait que ça va rester dans les installations, là, entre 900 et 1000 ans. Fait que c'est vraiment une partie de la végétation qui se décompose. C'est pour ça qu'on a des émissions relativement faibles au Québec.
Donc, c'est vraiment important de vulgariser puis de mentionner aussi que c'est un phénomène qui est temporaire. Donc, effectivement, très rapidement après la mise en eau des réservoirs hydroélectriques, la dynamique est changée pendant un certain temps, pendant cette période-là, qui dure à peu près, selon les réservoirs, entre 10, maximum 15 ans. On a plus de décomposition, plus de GES qui pourrait être produit, puis par la suite, ça revient équivalent à un grand lac.
C'est quand même un très, très court délai là, comparativement au nombre de temps qu'un réservoir va durer pour produire de l'électricité.
Absolument. Si on parle sur un cycle de 100 ans, par exemple, on utilise souvent un 100 ans pour comparer les filières énergétiques. Bien, effectivement, c'est assez court. Quand on parle de 10 à 15 ans maximum, et puis selon les réservoirs, ça peut être plus court. Mais en général, c'est ça, Alain? C'est à peu près une dizaine d'années qu'on vient équivalent en milieu naturel.
D'ailleurs, une des forces qu'on a, c'est notre parc de production, là, le 38 000 MW qu'on a installé. Mais la majorité des émissions sont derrière nous. Donc, quand on parle de décarbonation puis d'énergie verte, on est dedans, là. Nos émissions sont derrière nous en termes... C'est un choix qu'on a fait de société, mais là, on est dedans, là. Les émissions sont relativement faibles aujourd'hui par rapport lors des périodes de construction. Donc, c'est tout un avantage qu'on a, là.
Donc, on a payé le coût GES déjà, puis là, on peut profiter des bénéfices.
Absolument. Ouais.
Bon, on pourrait le voir comme ça. Puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est que on est face au changement climatique. Donc, l'objectif, en fait, c'est de sélectionner des modes énergétiques qui sont à faible empreinte carbone. Et puis, l'avantage qu'on a ici au Québec, comme le disait Alain, on est en Boréal. C'est froid, bien oxygéné, donc on favorise très peu certains gaz qui sont plus, disons-le, nocifs que d'autres, méthane par rapport au CO2, par exemple. Mais aussi le fait qu'on est non intermittent. Ça aussi, c'est un élément excessivement important. Quand on parle au solaire, c'est bon. On pense à l'éolien, c'est bon. Mais ils sont tout de même intermittents, contrairement à l'hydroélectricité, où ça nous assure une alimentation électrique constante dans le temps. C'est un des éléments majeurs d'avantage qu'on a par rapport à notre source hydroélectrique.
Est-ce qu'on avait des commentaires supplémentaires à soumettre à nos invités, Mme Leblanc?
Il y en a un qui va vous rendre vraiment heureux et fier d'avoir un doctorat dans le domaine. Jean nous demande, on va dire les bienfaits du caribou, les bienfaits des barrages des rivières, continuez à faire des barrages, tout va bien, et tous les poissons ne sont pas contaminés au mercure. Allez, détruisez la terre, les rivières, tout ce qu'ils font est bien. Nous, une partie de notre travail, c'est toujours d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne essaye de comprendre en nous écrivant. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il veut nous parler de poissons et de mercure principalement. On l'a abordé rapidement. Comment vont les poissons dans nos installations?
Bien, les poissons vont très bien dans nos installations. Ce qu'on peut dire, puis ça tombe bien, c'est une excellente question, le mercure. Ça fait depuis la fin des années 70 qu'Hydro-Québec étudie la question. Et c'est basé sur toutes les recherches qu'on a antérieurement sur pratiquement les 40 dernières années. On a développé un programme de gestion du risque à la santé lié au mercure. Donc, c'est une question importante qu'on adresse. Ce qui est important de mentionner, c'est que tous les poissons contiennent du mercure naturellement. Donc, les poissons prédateurs contiennent plus de mercure que les poissons non prédateurs. Dans un milieu naturel, c'est comme ça. Ce qui se passe après la mise en eau d'un réservoir hydroélectrique, c'est évidemment, on monte le niveau d'eau, on ennoie une matière organique que je disais organique verte facilement décomposable. Il y a une partie du mercure qui n'est pas dangereux dans cette matière organique-là qui est transformée par les fameuses bactéries en méthylmercure, une petite fraction. Le méthylmercure, lui, a tendance à se bioaccumuler. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après un certain nombre d'années, après la mise en eau d'un réservoir hydroélectrique, bien, les teneurs en mercure dans les poissons des réservoirs sont plus élevées.
Bioaccumulé, sais-tu que c'est que ça va passer d'un poisson à l'autre poisson, mettons?
Oui.
Quand un qui mange un plus petit, ça ramasse avec son mercure?
Absolument. Ouais. Ça, on peut le résumer comme ça. Donc, on pense de chaîne alimentaire. Donc, ce qui est en bas de la chaîne alimentaire, le plancton, par exemple, les petits organismes qui vivent dans l'eau ont du mercure. Plancton, alimentation de poissons non prédateurs, et le poisson prédateur mange le gros poisson. Effectivement, à chaque maillon de la chaîne alimentaire, il y a une bioamplification, donc une teneur plus élevée en mercure. Donc, comme je le disais tantôt, pendant un certain nombre d'années, on a une augmentation du mercure dans la chair des poissons des réservoirs. Puis après ça, évidemment, quand le mou est digéré par les bactéries, bien, le flux de mercure revient équivalent au milieu naturel. Et là, ça prend entre 10 à 35 ans avant que les teneurs en mercure des poissons des réservoirs reviennent semblables à ce qui se passe en milieu naturel. On ne reste pas taciturne. En fait, ce qu'on fait pendant cette période-là, bien oui, on utilise des modèles, mais on va faire des mesures de terrain pour valider nos prévisions en avant-projet, pour s'assurer que ce qu'on prévoyait arrive. Et on fait beaucoup de communication au niveau des gens. On travaille avec les agences de santé publique. On fait des guides de consommation spécifiques aux endroits où nos aménagements sont positionnés. Et puis, on communique le risque potentiel à la santé, mais surtout les bienfaits liés à la consommation de poissons. Donc, l'idée, on ne veut pas empêcher, on ne veut pas réduire la consommation de poissons. On veut que les gens en mangent. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recommandations de repas par mois à respecter. Et puis, à ce moment-là, ben c'est comme ça qu'on gère le risque à
toi,
la santé.
Toi, tu n'aurais pas peur là, d'aller prendre un poisson?
Non, pas du tout.
Du tout.
Surtout un petit, les petits ont moins de mercure.
Les petits n'ont pas de problème.
Exactement. Puis c'est toujours une question de fréquence de consommation, par exemple.
Mais ça, c'est le cas même pour n'importe quel poisson qu'on mangerait.
Oui, absolument. Oui, il y a des poissons, par exemple, le thon rouge, par exemple, qui est un poisson prédateur, qui est vendu. Ben, il contient du mercure, lui aussi. Donc, il y a des recommandations associées aux différentes espèces de poissons et d'où ils proviennent. Le grand brochet a plus de mercure, par exemple, que du grand corégone.
Mais je vais revenir un peu quand même à la question de tantôt. Est-ce que les poissons se portent bien? Oui, François l'a dit tantôt. En entrée de jeu, la table est mise dans un réservoir. Il y a une explosion de production. Des poissons, il y en a plein. C'est pour ça qu'il y a des pourvoyeurs qui s'installent à l'entour de nos réservoirs. Les poissons sont en santé, il y en a en quantité. Une grosse augmentation au début, mais par la suite, là, ça stabilise, comme les lacs avant. Fait qu'on a des densités de poissons, là, les quantités à plus élevées au début, puis après ça, ça stabilise comme un lac. Fait qu'en termes de quantité, là, les espèces peuvent varier, mais c'est les mêmes quantités, les abondances dans un réservoir que dans les lacs.
Donc, les poissons, ils se portent bien dans nos... Est-ce que le poisson qui est dans notre réservoir, il est plus malheureux que le poisson qui est dans une rivière ordinaire?
Ah, ça, il faudrait y demander là, si c'est ça le cas, mais je veux dire, si on regarde les habitats et tout ça, il y en a autant. Donc, la santé des poissons, on les voit par les densités, par les quantités de poissons, le nombre de petits. On voit, nous, une tonne de production similaire dans un lac, dans un réservoir, avant ou après.
Life goes on, il vis-à-vis de poissons, lui. Comme
lui ça, selon notre avis, c'est pas mal équivalent. Ça, il faudrait y demander son évaluation.
On fait des sondages auprès des poissons dans nos réservoirs.
Alain, j'ai cru comprendre que vous alliez lancer une idée, mais je vous reformule la question directement. Est-ce qu'on a déjà vu un cas d'intoxication au mercure au Québec?
On n'a jamais vu de cas d'intoxication au mercure lié aux consommations de poissons au Québec.
On a parlé un peu plus tôt de l'analyse de cycle de vie, donc comparer les différentes sources d'énergie. Je pense qu'on a des commentaires à soumettre à nos invités là-dessus.
Oui, François avait une question. Vous allez voir, là, ça
part... Pas lui, là.
Non. En fait, François va répondre à François.
J'ai toujours des questions. Ça pourrait être moi, c'est peut-être moi qui l'ai mis.
Peut-être. Je ne pense pas. Je vais te lire le commentaire. Si c'est toi qui l'as posé, tu vas être déçu. Saviez-vous que ça produit pas beaucoup d'électricité, les éoliennes? La plupart du temps, les palmes tournent avec un moteur. Avec le peu d'énergie qu'elle produit, parfois, ne charge même pas son propre moteur. Les États-Unis produisent plus avec panneaux solaires. Saviez-vous que c'est l'avenir, le solaire? C'est-tu ta question?
Je peux me lancer.
Ben oui, vas-y Alain, t'es bon quand tu réponds, je te trouve beau.
La question est bizarrement formulée, je vais la repositionner dans le sens que l'éolien, ça produit pas toujours de l'électricité. Là, au Québec, la moyenne, si je ne me trompe pas, c'est entre 25 et 30 % du temps en termes d'efficacité. Donc, si on veut 1000 MW, il faudrait développer quelque part 3000 MW parce qu'on a l'intermittence là, dans différentes filières énergétiques. Bon, le solaire et l'éolien, c'est toujours un peu difficile de comparer. C'est pour ça qu'on a une analyse de cycle de vie qui nous permet de comparer des pommes avec des pommes. Donc, on regarde la quantité d'énergie produite par différentes filières sur un nombre d'années. Là. C'est, le cycle, ça peut être 50 ou 100 ans. En général, c'est 100 ans. Et là, ça nous permet de comparer sur une même base.
Puis le cycle de vie, qu'est-ce qu'on met là-dedans?
C'est bon, le cycle de vie, je vais donner l'exemple du charbon. Mais le charbon, ça serait l'extraction de charbon, son transport, la combustion de charbon pour produire de l'énergie, puis tout le reste qui vient avec. Donc, la chaîne au complet, de l'approvisionnement jusqu'à la production de l'énergie livrée à la porte. Donc, au Québec, ça serait... la production d'énergie dans nos installations ou le solaire, là, et puis le transport, la distribution de l'énergie jusqu'à la porte du client. Ça serait l'ensemble de tout ce qui se passe. Donc, la création des réservoirs, le transport, le béton pour la construction, tout ça serait intégré.
Toutes les externalités.
Toutes les externalités à l'installation sont comptabilisées en termes de gaz à effet de serre, puis on regarde après ça, la somme de toutes ces externalités-là, ça donne combien, puis on peut comparer.
Donc, on le ramène au kilowattheure.
On le ramène au kilowattheure, c'est ça. Ouais. Pour un kilowattheure produit, combien d'émissions? Au Québec, on est chanceux, on a une signature, une empreinte carbone de 34, une moyenne pour notre parc de production. Ça, c'est la production, le transport et la distribution de cette énergie-là. se compare au gaz naturel, on va tomber dans le 380. Donc, on est au moins 10 fois plus bas que le gaz naturel.
10 fois plus bas.
Mais on est comparable dans un marché nord-américain, là, à peu près dans le même ordre de grandeur, puis l'éolien, puis le solaire. C'est, ça varie, là.
Donc, ça se ressemble.
La grande force de notre électricité, François l'a mentionné tantôt, c'est qu'on peut produire de la pointe puis de la base.
Mais ultimement, c'est complémentaire, dans le fond.
Bien, c'est complémentaire, mais ni l'éolien ni le solaire peuvent fournir de la base. Fait que nous, on est là pour fournir un peu l'intermittence puis favoriser l'intégration des autres renouvelables parce qu'on a cette capacité de réserve ou de produire de la base ou de la pointe selon les besoins.
Donc, le fait qu'on a l'hydro nous permet de faire plus d'éolien, peut-être du solaire. Donc, ça nous donne ces outils-là, alors que si on n'avait pas à la base l'hydro, ça serait plus difficile de faire de l'éolien ou du solaire.
Oui, okay. Puis partout dans toutes les juridictions dans le monde qui veulent développer du renouvelable, ils doivent avoir dans leur portfolio une partie hydraulique pour compenser l'intermittence des autres sources.
Ou malheureusement, il y en a d'autres qui se retrouvent plutôt avec des centrales thermiques pour faire cette base-là, alors que nous, on n'a pas besoin de le faire.
Quand on l'a, c'est une très grande force.
Ça, c'est quelqu'un... En fait, c'est une publication qui a été faite par le journal Le Courrier du Sud, puis c'était sur leur page Facebook. Puis on était allé intervenir dans les commentaires à cet endroit-là. Puis il y avait un monsieur qui avait décidé de faire installer des panneaux solaires chez eux. Et lui, il disait que c'était pas pour sauver des sous, mais il dit que ce n'est pas une question d'économie, mais une question de participer à l'écologie et à la protection de l'environnement en diminuant les gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez une mauvaise nouvelle pour Robert qui avait pris cette décision?
Pas une mauvaise nouvelle, mais... Son discours n'est pas tout à fait réaliste, dans le sens qu'on a souvent tendance à isoler la production d'énergie avec les panneaux solaires, mais dans notre analyse, il faut intégrer la capacité d'accumuler. Fait que si on intègre les batteries dans le raisonnement, le solaire n'est pas si propre que ça par rapport à l'hydroélectricité. Fait qu'on a tendance à regarder l'éolien, les turbines qui tournent, le solaire, les panneaux qui accumulent, qui produisent de l'électricité, mais on enlève du discours les batteries qui ont une signature en carbone, mais une empreinte environnementale qui est importante. Et ça, on ne l'a pas dans le discours.
Mais notre ami Robert, là, est-ce qu'il rend service à la planète en s'installant des panneaux solaires plutôt que d'être branché sur le réseau d'hydro?
Au Québec, non. Dans d'autres juridictions, peut-être. Mais au Québec, la meilleure source avec l'empreinte carbone et environnementale la plus faible, c'est encore l'hydroélectricité.
Donc, ça lui a coûté bien cher pour finalement pas grand-chose.
Oui.
Il n'y a pas tant de clients non plus qui sont... tu sais, nous, on offre une option de mesurage net, donc qui permet aux clients qui ont des panneaux solaires de renvoyer leur surplus quand ils en ont sur le réseau pour obtenir des crédits. Il n'y a pas tant de clients qui bénéficient de cette option-là. Là. Tu sais, on peut s'imaginer que tout le monde a des panneaux solaires maintenant, mais c'est complètement faux. Là. Savez-vous, en 2021, combien on avait de clients qui participaient au mesurage net? On était à 729 clients. Ça reste peu sur l'ensemble du Québec quand même. C'est très, très marginal.
Robert, étais-tu dans ton chiffre?
C'est sûr que Robert... Ouais. En fait, on m'écrit ici 729 clients plus Robert.
Plus Robert. Mesdames, messieurs, le temps file. Est-ce qu'on a encore des commentaires à soumettre à nos deux invités avant qu'on les libère?
Ben, moi, j'ai quelque chose. Il y a une vieille légende urbaine qui revient ponctuellement dans les commentaires des gens qui ont la mémoire dure. Et c'est quelque chose qui s'est déroulé en 1984, croyez-le ou non.
Donc, est-ce qu'on était tous là?
Non.
Non, Gab n'était pas là, elle s'en rappelle pas.
Oui, j'étais là, mais j'étais très jeune, fait que je m'abstiens de commentaires sur cette question.
Le dernier en date à nous en parler s'appelle Philippe, puis il dit « Juste pour se faire pardonner pour la noyade de centaines de caribous, il n'y a pas si longtemps. » Donc, les gens sont un petit peu vagues quand ils nous parlent de ça, mais il y aurait en 1984 beaucoup de caribous qui se seraient noyés. Et il y a même un livre là-dessus qu'on s'est procuré. Mm-hmm. Mais je pense qu'on aimerait ça t'entendre à ce sujet-là.
J'ai pas lu le livre, là. Guétan Ayers, je connais Guétan Ayers, c'est un ancien d'Hydro-Québec en environnement. Il était là quand je suis rentré il y a bien longtemps. Mais la noyade du caribou, c'est un peu un événement médiatique. C'est en sens qu'il y avait une équipe en hélicoptère de médias qui passait, puis là, il a vu les caribous. Les caribous, puis mon collègue Alexandre pourrait vous en parler, là, c'est le spécialiste caribou Hydro-Québec. C'est un chemin, un corridor de migration. Puis là, quand ils arrivaient pour se migrer, il fallait qu'ils traversent la rivière, mais c'est un site de migration un peu bizarre parce qu'il y a un énorme courant. C'est très difficile de remonter l'autre côté de la rivière. Et les courants en amènent en aval, puis il y en a beaucoup qui meurent. Et c'est une façon un peu d'équilibrer les populations, ce type de migration-là. Il y a un certain nombre de caribous qui meurent à cause des migrations. Les autres poussent en arrière, mais ils ne sont pas capables de sortir de l'autre rivière. Là, c'est un peu comme les gnous en Afrique. Ça, c'est des choses qui arrivent naturellement. Quand il n'y a pas de caméra, il meurt, puis ça fait partie du cycle de vie. Et les animaux morts, mais ils servent aussi d'aliment pour les autres animaux terrestres. C'est une conséquence qu'une caméra qui est passée, qui a dit qu'il a mis une cotation négative, que c'était épouvantable. Mais le ministère a fait l'étude et a démontré que l'impact a été beaucoup moins grand parce qu'Hydro-Québec régularisait la rivière. Fait qu'il y aurait eu quand même une mortalité. C'est un phénomène naturel dans le contrôle des populations du caribou. Puis le ministère l'a dit, mais malgré la forte position du ministère de l'Environnement qui a dit que c'est pas la faute d'Hydro, Hydro a même favorisé à réduire la mortalité, ça demeure une légende urbaine pour Hydro-Québec.
Mais j'ai trouvé. Souvent, hein. Ça revient souvent, cette question-là. Ouais, puis une de mes premières journées aux réseaux sociaux chez Hydro-Québec, c'est une question qu'on avait reçue. J'avais aucune idée de quoi était question. J'ai demandé à Pierre-Alexandre, on a-tu noyé des caribous récemment? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Puis là, Pierre m'a dit, ah ouais, c'est vraiment une vieille histoire. Puis c'est là qu'il m'a remis le fameux livre informatif.
Que tu n'as toujours pas lu.
Je ne l'ai pas encore lu, La noyade de
1900... Mais il y a des post-it.
C'est drôle, par contre. Qu'on...
Il y a des... Oui, il y a des post-it, mais c'est vraiment pas moi. Mais là, j'ai plus besoin de le lire. Vu qu'on
non, mais c'est drôle que parce qu'on parle du côté négatif, mais on a tendance à oublier qu'il y a eu plein de positifs des réservoirs pour l'immigration de caribous. Ils utilisent les réservoirs pour se promener l'hiver, tu sais, pour accéder à des îles. Fait qu'il y a quand même du positif dans l'ensemble de notre présence sur le territoire. On a tendance à parler du négatif, mais il y a plein de positifs dans le cas du caribou.
Les caribous sont heureux comme nos poissons. Hein.
Mais j'ai trouvé intéressant, si tu disais, hey, notre spécialiste du caribou. J'ai comme, hey, on a un spécialiste du caribou. Parle-nous donc, on a des spécialistes dans tout. Là. On a des spécialistes des anguilles, des caribous, des
capots. On n'a pas de psychologue pour poissons, par contre.
Mais qu'est-ce qu'on a en environnement? Moi, c'est impressionnant de voir tout le monde qu'on a qui travaille en environnement chez Hydro-Québec, parce que c'est une question dont on se préoccupe vraiment dans tous nos projets. Tu veux-tu juste faire un petit tour d'horizon?
Absolument. François, pour ajouter par la suite, mais on est quand même à Hydro-Québec là, à peu près 160 en environnement. Là, puis là, on intègre là-dedans là, le milieu humain, etc., pour l'environnement de nos installations. Mais Hydro-Québec, on touche au milieu terrestre, on touche au milieu aquatique. Donc, on a des spécialistes poissons, on a des géomorphologues, on a des chimistes, on a des spécialistes caribous, là, la faune, on a pour les milieux humides, la végétation. On a plein d'expertises qui représente les différents habitats ou milieux que Hydro-Québec a à intervenir pour travailler là-dessus. Autant en avant-projet, en projet en construction ou en suivi environnemental, les gens ne se rendent pas compte qu'on fait beaucoup de choses pour l'environnement longtemps après la construction du barrage. Romaine, François me corrigera, on est jusqu'en 2039 ou 2040. Même si la construction s'est terminée cette année, on va être présent sur le territoire avec les relations avec le milieu, avec l'environnement, jusqu'en 2039-2040.
Évidemment, quand on a des impacts, on essaie de les atténuer, voire les éliminer. Et puis après ça, ce qu'on fait quand on a un projet, on ne part pas là de même sans aucune obligation légale. Avec le temps, il y a eu beaucoup plus de réglementations qui sont mises en place. Donc, on doit être encore de plus en plus proactif. On doit encore mieux documenter nos impacts. Et puis, il y a différentes composantes. Alain le mentionnait, composantes aquatiques, composantes terrestres, milieu humain aussi. On travaille avec des anthropologues. Quand on fait des guides de consommation, je travaille avec des anthropologues aussi pour essayer de mieux vulgariser les enjeux. Donc, c'est un travail vraiment d'équipe à Hydro-Québec. C'est méconnu, le nombre de personnes qu'il y a en environnement. Et puis, Alain le mentionnait très bien, Romaine, c'est un bon exemple. C'est notre dernier petit bébé là, qui vient justement d'être mis en production. Là,
il mange du mou?
Peut-être, je sais pas. Marche-tu bouge, bonne question. Mais effectivement, on a un calendrier de suivi, de suivi environnementaux après la mise en place des aménagements. Et puis, on doit corriger le tir si on se rend compte qu'il y a un impact qui n'était pas anticipé, qui apparaît.
Messieurs, c'est l'heure de conclure. Je vais essayer de synthétiser ce qu'on vient de se dire là, au cours des dernières minutes. En
bonne
quelque
chance.
Sorte, notre hydroélectricité se compare très bien aux autres sources et les bactéries mangent mou. C'est bien ça?
Absolument. Absolument. Il ne faut pas oublier ça, c'est le plus important.
Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Quant à vous, bien, regardez la liste des sujets. Il y en a plusieurs, tous plus passionnants les uns que les autres.